Bienvenue à l'Intermédiaire Podcast d'échecs. Bonne écoute. Bienvenue à l'Intermédiaire Podcast d'échecs, ici William Savard et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir nul autre que moi-même. Eh bien oui, je me lance dans le vide en tentant de faire mon premier épisode de solo. Je vais tenter de survoler l'histoire des échecs à partir de son obscure création jusqu'à aujourd'hui. Je vais également tenter de parler des échecs, même sans pour autant parler en détail de tous les joueurs qui ont eu un impact, car vous en doutez sûrement, cela serait plus long que d'apprendre toutes les variantes de la sicilienne, et en ce qui me concerne, ne serait-ce que leur nom. Avant d'aborder directement le sujet, j'aimerais citer mes sources, Gotham Chess, Universalis, Radio-Canada, Chess.com et la mère de tous les mots Wikipédia. Qui a inventé les échecs et quand? C'est une question qui est pratiquement aussi controversée que le lieu d'origine de la poutine. Est-ce que c'est Drummondville, Victoriaville ou le Saguenay-Lac-Saint-Jean? Pour vous dire la vérité, c'est un sujet important pour environ 8 restaurateurs. Ne me lancez pas du fromage en grains, je vous en prie. Il est de toute évidence inutile de vous dire que les historiens ne s'entendent pas sur l'origine exacte des échecs. Les trois régions dans lesquelles le jeu serait apparu sont la Chine, l'Inde et la Perse, qui se définit par l'actuel Iran. Une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les historiens ne s'entendent pas est la définition plus ou moins large que nous donnons à l'origine du jeu, car déplacer des pions sur un espace quadrillé est un concept qui date de 3 millénaires avant Jésus-Christ. C'est pour cette raison que je vais vous parler de la première version qui s'en rapproche. Il faut également considérer que lorsqu'un jeu est surnommé le roi des jeux et que sa popularité ne fait qu'augmenter de façon exponentielle, il serait moins audacieux de prédire qu'il y aurait une manifestation à Nantes sur l'appartenance de celle-ci à la Bretagne que de dire qu'une nation aurait avantage à s'approprier un jeu avec une histoire si riche. Bref, rendez-vous à l'évidence, Nantes, vous n'êtes plus breton. Désolé, chers auditeurs québécois pour ce gag, le deux tiers de mon auditorat est français. Je dois donc, à leur tour, leur faire bénéficier de mon humour douteux, histoire de changer le mal de place. Je vais donc tenter le plus objectivement possible de démêler les légendes qui ont été tissées au fil du temps et de vous parler des faits. Il est cependant mon devoir de vous aviser, avec cette notice, je ne suis ni historien ni recherchiste. Il est alors possible que j'y glisse des informations erronées contre mon gré, mais rappelez-vous que les historiens ne s'entendent toujours pas, ce qui rend ma culpabilité, en cas que cela se produise, aussi présente que Nantes dans la Bretagne. Désolé, elle est encore trop facile. Je vous laisse tranquille, Nantes. Je ne vais pas transformer cette blague en running gag, comme on dit au Québec, ou en comique de répétition. Je pourrais vous parler de la légende du brahmane Sissa. Cette légende dit que Sissa s'est fait convoquer par son roi et ce dernier disait qu'il mourait d'ennui. Il donna l'ordre au brahmane de lui inventer un jeu. Sissa inventa alors les échecs et le roi fut éternellement reconnaissant et offrit une récompense de son choix à Sissa. Ce dernier, voulant se moquer du roi et lui jouer un tour, lui demanda de mettre un grain de riz sur la première case du jeu. Le lendemain, de mettre le double des grains de riz de la veille sur la case suivante. Et ce, jusqu'à la fin de l'échiquier. Quelques jours passèrent et le roi comprit que ça allait aller amener son royaume à la perte. Sissa, content de sa moquerie, rit un bon coup et déclinèrent toute récompense. Pour vous donner une idée du nombre de grains de riz que cela correspond à plus de 1000 fois la production mondiale de 2012. La version moderne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, est excessivement différente des versions plus primitives, à l'exception de la version perse, le Chatrang, et la version indienne, le Chaturanga. Ces deux versions sont exactement le même jeu l'un et l'autre, et il est inutile de vous dire que nous ne savons pas quelle version est arrivée l'une avant l'autre. Ils sont arrivés autour de l'an 600 après Jésus-Christ. Chaturanga est un mot dans la langue sanskrite signifiant « le jeu des quatre rois ». Le Chaturanga se joue naturellement à quatre joueurs avec un dé. Le jet de dé détermine quelle pièce que le joueur devait obligatoirement jouer, mais la case était au choix du joueur. Les fous sont remplacés par des éléphants, la dame un vizir, le vizir pouvant bouger que d'une case dans la diagonale de son choix. La tour est un rook, ou pour ceux qui connaissent Gotham Chess, un rook! Le cavalier est un cheval et le pion est un terme arabe qui, avec une traduction libre, signifie fantassin. Le fantassin ne pouvant qu'avancer qu'une case à la fois. Grand rook et petit rook sont choses encore inexistantes. Le but du jeu étant de capturer l'intégralité des pièces de l'adversaire. Être patte, c'est-à-dire n'avoir aucun coup légal de possible, est considéré comme une victoire. C'est encore le cas pour moi aujourd'hui lorsque je suis en retard de 8 gazillions de points matériels et que je refuse de concéder la partie et que mon adversaire tente de me punir et de m'humilier avec une sixième promotion de dame, mais qui oublie malencontreusement de laisser une case à mon roi pour s'enfuir. Bref, vous comprenez très bien ce que je veux dire. En peu de temps, la notion du hasard a été supprimée en retirant le dé. Le jeu est devenu 2-2 et la position de départ des armées des joueurs ou les pièces est modifiée pour être un côté contre l'autre, au lieu de chacun des 4 côtés du plateau. L'armée des joueurs est finalement consacrée à un joueur par camp. Les premiers textes d'échecs sont datés d'environ du 7e siècle après Jésus-Christ. Dans les environs du 10e siècle, le jeu commence à suivre son cours dans toute l'Asie par les chemins commerciaux ou guerriers et connaît une expansion significative, toujours sous la forme du Chaturanga. À la suite de la conquête musulmane dans le royaume de l'Hispanie ou de l'actuelle Espagne, les échecs sont ainsi introduits aux Occidentaux. Une légende prétend que l'empereur Charlemagne se serait fait offrir un jeu par un souverain musulman. Le terme légende est excessivement important car selon les historiens, il serait beaucoup plus probable que le dit jeu d'échecs soit fabriqué à Salerne vers la fin du 11e siècle. La popularité du jeu augmente. Nous retrouvons même à l'intérieur du poème latin Versus de Scacchis ou Scacchi, pardonnez ma prononciation, les premières règles écrites du jeu. Je vais profiter également de ma tribune pour faire un aparté. Les gars, c'est à vous que je parle. Si vous voulez conquérir votre partenaire, essayez du Victor Hugo ou du Thomas Chatterton. Le poème débute par des genres de louanges au jeu et se poursuit par une explication méticuleuse des déplacements des pièces, mais avec des mouvements différents pour le fou et la reine. Bref, tout portait à croire que l'auteur de ce dit poème ne connaissait pas vraiment le jeu, ni la poésie d'ailleurs. Le jeu s'occidentalise, les pièces ont beaucoup plus de mobilité sur le plateau. Une théorie expliquant cela serait l'apparition de la poudre à canon. La poudre à canon rendant l'artillerie plus puissante et se serait transposée ainsi sur le jeu. L'occidentalisation se poursuit et le plateau est devenu bicolore avec des cases rouges et noires. La bichromie alternée est favorisée afin de pouvoir mieux visualiser l'échiquier. Cela nécessite une moins grande vision géométrique. Les pièces n'ont pas toujours eu un camp noir et un camp blanc. Le rouge et le noir étaient mis à l'avant. Le rouge et le noir ne signifiant peu ou pas grand-chose pour une mentalité féodale chrétienne, les pièces noires sont alors changées en rouge. Le duo blanc et rouge représente le duo de contraire le plus fort. J'invite tous les chromatologues à slider dans mes DM et m'expliquer ce que cela peut bien signifier. Pour faire un peu de pouce sur la théorie des couleurs, au Moyen-Âge chrétien, on construisait ces systèmes de couleurs autour de 3 pôles. Le rouge, le blanc et le noir. Donc le blanc et ses 2 contraires. Ce n'est que 3 siècles plus tard que le noir et le blanc ont fait leur apparition sur le plateau, car cela est plus efficace et le noir, autrefois associé à la couleur de la mort, le péché et du diable, est devenu la couleur de l'humilité et de la tempérance. Pardonnez-moi, j'avais envie de redire le mot comique de répétition, alors j'ai dû recréer un comique de répétition. Les pièces également changent de nom. Le vizir devient la vierge, puis la reine. Après la Révolution française, elle va devenir la dame pour retirer une référence monarchique à un jeu emblématique. La personne ayant décidé de cela devait forcément être un homme, car il a oublié que la pièce voisine était un roi. J'en suis persuadé cependant que ce n'était pas pour une raison sexiste, ou pas. L'éléphant est devenu un fou et le rock une tour. Une fois le jeu répandu en Europe, la notion du hasard est encore présente à certains endroits. Et qui dit hasard, jeu et plaisir veut également dire clergé qui censure le tout. C'est en 1212 au Concile de Paris que l'Église se prononce sur l'ensemble des jeux de hasard, ce qui comprend les échecs et censure ceux-ci. Cette censure fonctionne aussi bien que la prohibition de l'alcool aux États-Unis et comme toute chose interdite au peuple, le jeu se popularise dans le milieu de la bourgeoisie. Le jeu continue d'évoluer et le double pas du pion, lorsqu'il est sur sa case de départ, apparaît afin de faire accélérer la partie. Donc pour en arriver à l'ouverture E4-5, il fallait bien 2 coups de la part des joueurs. L'arrivée de la prise en passant est arrivée bien peu après le double pas. Le ROC est également ajouté au règlement afin de protéger le roi davantage. Ce n'est que vers la fin du Moyen Âge que le premier théoricien des échecs fait son apparition. Il s'agit de Luis Ramirez de Lucina. Le nom de famille vous dit fort probablement quelque chose si vous avez étudié le final Roi Tour Pion versus Roi Tour. Son livre, publié en 1497, contient 150 parties et de la théorie sur 11 ouvertures. La position Lucina est nommée en raison de Luis Ramirez de Lucina, mais elle n'apparaît pas dans son livre. Ce n'est que 100 ans plus tard que la théorie apparaît dans un livre. C'est ce qui résume grandement l'histoire de l'apparition des échecs modernes tels que nous les connaissons aujourd'hui. Au travers des époques, c'est le jeu lui-même qui se raffine. Ce sont les grands concepts qui apparaissent. C'est l'Italien Gioacchino Greco, connu pour le premier joueur considéré comme le meilleur de son époque. Un exemple des concepts qu'il a mis en œuvre sont le contrôle du centre et le développement des tactiques. Les sacrifices sont mis en œuvre les uns après les autres. C'est lui qui a exécuté pour la première fois le mat le plus satisfaisant, à mon avis, de l'histoire de l'humanité, le mat de l'étouffé. C'est une époque où les sacrifices de pions et parfois même des pièces étaient mises à l'avant afin d'obtenir des compensations stratégiques. Il est également reconnu pour avoir joué l'ouverture italienne. La variante de l'ouverture italienne Gioco Piano signifie de jouer doucement et lentement. Le terme de la variante Gioco Pianissimo signifie de jouer encore plus doucement. Définitions qui, bien sûr, sont propres à leurs ouvertures. Greco, contrairement à ce que nous pourrions croire, n'est pas le créateur de cette ouverture. Ce sont plutôt les joueurs comme Damiano, que vous avez sûrement déjà entendu quelque part avec la défense Damiano, qui est solidement réfutée aujourd'hui, et le joueur Giulio Polerio. Vers le 18e siècle apparaît un autre grand théoricien, le français François-André Philidor. Connu pour l'ouverture Philidor et sa mise en pratique des finales, en particulier pour les finales Roi-Tour-Pion versus Roi-Tour. Un camp essaie d'obtenir en combinant tous les bons coups, soit la position Lucina, pour obtenir la victoire forcée. L'autre camp, cependant, essaie d'obtenir la position Philidor en combinant tous les bons coups, obtient la nulle. C'est au café de la Régence de Paris que jouent les plus belles parties de Philidor, notamment celles contre Diderot. Des personnes comme Robespierre ou Camille Desmoulins viennent y jouer des parties. C'est dans les années 1800 que les échecs sont entrés dans l'époque moderne. Les premiers tournois sont organisés, des stratégies beaucoup plus poussées voient le jour et des champions sont nommés. C'est à Londres, en 1851, qu'a eu lieu le premier tournoi international. Les maîtres d'échecs gagnent du prestige au sein de la population et avec l'apparition des tournois internationaux, les conflits géopolitiques en lien avec les échecs apparaissent forcément. Les écoles d'échecs commencent à pousser un peu partout. Le premier champion du monde officiel est sacré en 1886 et c'est nul autre que l'Autrichien Wilhelm Steinitz qui obtient le titre. C'est également dans cette époque qu'apparaît le natif de la Nouvelle-Orléans, Paul Morphy. Morphy est considéré par plusieurs comme le meilleur joueur d'échecs ayant mis les pieds sur terre. Cela est bien sûr ouvertement débattu car il est impossible de comparer des époques différentes. Il est reconnu pour une des parties les plus célèbres de l'histoire, cette partie ayant même un nom, la partie de l'opéra. Cette partie emblématique porte ce nom car elle s'est jouée pendant une représentation d'opéra à la défunte salle Le Pelletier. Elle comporte des séquences de sacrifices les plus incroyables les unes que les autres. Certains aiment dire qu'il a tout balancé à son adversaire, y compris le lavabo. Paul Morphy ayant pratiquement démoli tous les joueurs d'échecs les plus prolifiques de leur époque en Amérique du Nord et en Europe, il considérait les échecs comme un hobby seulement, et c'est à 25 ans qu'il troqua les échecs pour le droit. Il a connu énormément de difficultés à pratiquer le droit. À cette époque aux États-Unis, c'était la guerre de sécession et Morphy avait une philosophie anti-esclavagiste. Il a refusé de s'enrôler dans l'armée confédérée, le rendant fortement impopulaire dans sa ville natale. Il a ensuite déménagé à Paris le temps que la guerre se termine. Ses tentatives d'ouvrir un cabinet d'avocats ont été infructueuses car ses clients potentiels se présentaient à son cabinet seulement pour discuter d'échecs. C'est à l'âge de 47 ans qu'il connut une fin tragique, souffrant de paranoïa et de délire de persécution. Il est mort tragiquement d'une attaque cérébrale. Il était connu pour sa courtoisie, sa modestie, son génie et ses manœuvres tactiques à te scier les jambes en deux. Et la citation « Aidez vos pièces et elles vous aideront ». Wilhelm Steinitz était reconnu pour son approche novatrice des échecs. L'aspect positionnel est devenu un concept aux échecs grâce à Steinitz. Il accepte les pions sacrifiés dans un gambit. Il déteste la partie suragressive. Il fermait les positions pour suffoquer lentement son adversaire. Il a été le champion du monde pendant près de 7 ans où il concéda le titre à Emmanuel Lasker, qui lui-même le conserva pendant 27 ans. Des nouveaux concepts émergent avec Lasker. Le contrôle du centre était toujours d'actualité, mais avec les pièces telles que le cavalier ou le fou. La paire de fous étant considérée meilleure, les fous valent plus que le cavalier. Il y a également l'aspect tireur d'élite du fou qui est de plus en plus exploité. L'espace sur l'échiquier est également un concept positionnel que les joueurs de cette époque explorent. Les joueurs comme Ritti, Taraj et Nimzovic ne sont pas venus à bout de Lasker tellement il était puissant. Pour détrôner Lasker, il a fallu 27 ans et nul autre que le Cubain José Raúl Capablanca. Il a gardé le titre pendant 6 ans seulement, mais il est quand même considéré comme parmi les meilleurs de tous les temps. Ses techniques de fin de partie ont été réfutées par l'intelligence artificielle que de façon très, très exceptionnelle. C'est à Paris, en 1924, que la Fédération internationale des échecs est officiellement créée. Elle a comme devise officielle « Nous ne sommes qu'une famille ». Elle sert principalement d'organe coordonnatrice entre les différentes fédérations, mais n'a que très peu d'influence dans le monde des échecs, car l'Union soviétique, qui mêle échecs et politique à s'en confesser, refuse systématiquement d'y intégrer. Au 3e congrès de la Fédération internationale des échecs, ou la FIDE, ils ont décidé d'organiser les premiers Olympiades d'échecs. La Fédération a envoyé les invitations trop tard et seulement 4 pays y ont participé. La Hongrie a été victorieuse contre l'Allemagne, la Roumanie et la défunte Yougoslavie. Ce n'est qu'à la mort du joueur russo-français Alexander Alekhine en 1946 que l'Union soviétique a intégré la Fédération. Il était facile à l'époque de classer les meilleurs joueurs du monde entre eux. Il suffisait d'organiser un match entre les joueurs et le champion était couronné. Les échecs ont cependant pris énormément d'ampleur et les fédérations souhaitent classer leurs joueurs. En 1933 aux États-Unis, la Ligue d'échecs par correspondance d'Amérique utilise un premier système de classement numérique. Et oui, une Ligue d'échecs par correspondance, car un joueur envoyait le coup par la poste à son adversaire et vice-versa. C'est en 1948 que le premier système de classement qui a eu de l'influence sur le monde international des échecs est apparu et c'est l'inventeur Anton Hoslinger qui publie le système de classement INGO. Comparativement au système moderne, plus le nombre était petit, plus haut était ton classement. Peu après, en 1956, le système Harkness, nommé après l'organisateur du tournoi Kevin Harkness, établit un chiffre de classement de départ. Si un joueur obtient un score de 3 sur 6 dans un tournoi, soit 50%, il obtient le score de la moyenne de compétition. S'il performe au-dessus de 50%, il obtient 10 points de classement de plus par point de pourcentage. Donc une performance de 60% représente 10 points au-dessus de 50, donc 100 points à ton classement. L'inverse s'applique si la performance est sous les 50%. Me comprenez-vous? Mais ce n'est qu'en 1970 que la FIDE opte pour le système de classement ILO, Bobby Fischer étant tout en haut de la liste. Laissez-moi faire une parenthèse sur Bobby Fischer. Je pourrais parler de sa carrière échiquienne qui a marqué l'histoire des échecs. Son jeu magistral et sa compréhension du jeu dépassent largement la définition de génie. Les échecs étaient un domaine ultra niché, mais Robert James Fischer a rendu les échecs au même niveau qu'un sport professionnel. C'était rendu possible de gagner sa vie avec les échecs. Pour résumer le niveau du joueur, c'est en plein milieu de la guerre froide que l'Américain Bobby Fischer joue le match pour le championnat du monde à Reykjavik. La domination aux échecs était à ce moment assurée de façon unilatérale par l'Union soviétique. C'est le champion soviétique Boris Spassky qui était désigné pour affronter Fischer. Après un match épique où Fischer est un joueur de Kings Indian ou de E4, surprit tout le monde avec une ouverture anglaise. À la fin de la partie, Spassky s'est levé et a applaudi Fischer suite à la performance magistrale de ce dernier. Pour bien comprendre à quel point la performance était magistrale, il s'agit d'un Américain, en pleine guerre froide, où l'enjeu est principalement de l'orgueil des deux nations les plus puissantes dans un jeu qui fait partie intégrante de la culture et l'honneur soviétique. Spassky n'a pas terminé le match de championnat et s'est enfui avec son équipe. Fin de la parenthèse. ILO n'étant pas un acronyme, mais bel et bien qu'un nom de famille. ARPAD ILO a érigé le système de points que nous connaissons aujourd'hui. ILO est un système de classement utilisant des points majoritairement entre 400 et 2800. Le record du plus haut classement ILO est détenu par nul autre que Magnus Carlsen avec un classement de 2882 points. Le système ILO innove énormément car tu peux prendre des points à ton adversaire. Le système de classement ILO ajoute et enlève plus ou moins de points en fonction du classement de ton adversaire. Avec un adversaire de force égale, une partie nulle n'ajoute et n'enlève aucun point. Une victoire va t'enlever le même nombre de points qu'une défaite. Contre un adversaire mieux classé, le gain de points en cas de victoire sera plus fort et la défaite moins dommageable. L'inverse est vrai contre un adversaire moins bien classé. Le terme « maître d'échec » était utilisé mais seulement de façon informelle, car le titre n'existait pas vraiment. C'est en 1950 que la FIDE octroya le titre de grand maître à 27 joueurs. Les plus connus sont Botvinnik, Uwe, Grunfeld, Mises, Neidorf, Rogozin, Rubinstein, Smyslov et Tartakower. C'est de la même occasion que la FIDE octroya le titre de maître international à 94 joueurs et le titre de maître international féminin à 17 joueuses. Il faudrait faire une dizaine d'épisodes pour parler des décennies suivantes. L'ère Spassky, Fischer, Karpov, Kasparov, Carlsen, Liren, Annan, ils ont tous révolutionné le monde des échecs à leur façon. Ce qui a fait évoluer les échecs de façon astronomique est la venue de la technologie. Pas dans le jeu lui-même, mais dans le développement de celui-ci. En 1996, Garry Kasparov affronte nul autre qu'une machine. L'ordinateur Deep Blue, conçu par la compagnie IBM, ébranle totalement le monde des échecs. C'est à Philadelphie que Kasparov affronte Deep Blue dans un match de 6 parties. Il s'effondre à la première partie et comprend que l'ordinateur est vraiment un adversaire redoutable. Le match se poursuit avec 2 nuls et se termine par 2 victoires consécutives de Kasparov. Kasparov a dit que l'intelligence artificielle ne va jamais surpasser l'être humain. Un match revanche est organisé l'année suivante et Kasparov abandonne après seulement une heure de joute. L'ordinateur est maintenant rendu plus fort que l'humain. La force de l'intelligence artificielle augmente de plus en plus et une énorme révolution arrive, la barre d'évaluation. La barre d'évaluation permet de déterminer qui a l'avantage dans la partie. Chaque pièce a une valeur en termes de points. Un pion vaut 1 point, un fou et un cavalier en valent 3, une tour 5 et une dame 9. Le roi n'a aucune valeur. La barre permet d'évaluer la position et de déterminer l'avantage positionnel et tactique et matériel dans la partie. Un score de 1 signifie que les blancs sont en avance pour l'équivalent d'un pion. Un score de moins 1 signifie que les noirs sont en avance pour l'équivalent d'un pion. Par exemple, le joueur avec les blancs peut avoir sur la barre d'évaluation le chiffre 2.27, mais son adversaire a capturé un pion de plus. Cela veut dire que le joueur avec les blancs, même s'il est en retard d'un point de vue matériel, sa position est meilleure et il est quand même avantagé s'il continue à jouer les bons coups. Les échecs sont maintenant rendus accessibles à l'échelle planétaire, que ce soit pour maman qui apprend à jouer à ses enfants, un joueur de club régulier ou pour les joueurs titrés. Les échecs sont définitivement là pour rester. Je vais terminer ce récit par vous nommer des faits intéressants ou drôles que j'ai appréciés pendant mes recherches, mais qui s'y glissaient relativement mal. J'espère que, comme moi, c'est-à-dire vraiment nerd, cela va vous permettre de combler votre soif de culture générale avec des anecdotes que vous n'aurez probablement pas la chance de glisser dans une conversation au cours de la prochaine décennie. Saviez-vous que dans le film Harry Potter à l'école des sorciers, je me suis longtemps demandé à une époque où je ne jouais pas aux échecs, bien sûr, pourquoi Ron sacrifiait un pion dès le premier coup? J'ai su plus tard que c'était un coup parfaitement légitime et que c'était le premier coup de ce qu'on appelle l'ouverture scandinave. Échec et mat vient de la phrase perse sha-mat qui signifie « le roi est mort ». La plus longue partie d'échecs théoriquement possible est d'une durée de 5949 coups. La plus longue partie d'échecs s'est conclue par une nulle après un marathon de 269 coups. Le plus long problème d'échecs a été créé par Blatty Otto et c'est un mat forcé en 290 coups. L'échiquier pliable a été inventé par un prêtre dont les échecs lui étaient interdits. Il a construit un échiquier pliable lorsque le jeu était rangé sur une étagère. Il avait l'apparence d'un livre. En 1960 à Budapest, un Hongrois au nom de Janos Flinch a joué une partie simultanée les yeux bandés contre 51 adversaires. Il a gagné 31 de ses parties. En incluant les variantes, il existe plus de 1000 ouvertures possibles. Les pièces ont des noms différents selon la culture. Par exemple, en français, le fou fait référence au fou du roi. Le mot anglais pour un fou est bishop, qui se traduit par évêque. Dans plusieurs langues, le pion se traduit comme fantassin ou soldat à pied. En allemand et en espagnol, il signifie paysan. En espérant que mon épisode a répondu à toutes les questions que vous n'aviez jamais eues, et vous pouvez toujours me contacter sur mon Gmail, Instagram ou Facebook, soit l'intermédiaire podcast en un mot @commercialgmail.com, l'intermédiaire podcast sur Instagram ou sur Facebook, l'intermédiaire podcast d'échecs. Je prends le temps de lire tous mes messages et de répondre à chacun de vous. J'en profite également de l'occasion pour vous rappeler ma présence au candidat à Toronto du 2 au 7 avril inclusivement. Si vous avez des questions pour les candidats, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me contacter. Il me fera un plaisir de répondre et de poser ces questions moi-même à ces candidats. Sur ce, on se revoit dans un prochain épisode.